Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment aborder la notion de nature différemment? Comment intervient la possibilité de penser le monde comme énergie? Et comment la nature a-t-elle été thématisée dans la Chine ancienne, s'interroge la sinologue Han Cheng. Comment représenter juridiquement la nature et peut-on la personnaliser pour elle-même vraiment, s'interroge le juriste François Host, alors que les enjeux environnementaux pressent de trouver des solutions juridiques efficaces pour protéger la biosphère et les paysages menacés par l'effervescence non raisonnée des activités humaines. Nous voici presque à la fin de la diffusion du colloque « Les natures en question » donné au Collège de France en 2017. Pour l'anthropologue Philippe Descola, qui a dirigé son organisation et son comité, il s'agit d'examiner dans une perspective interdisciplinaire les questions soulevées par les déplacements de la frontière entre déterminations naturelles et déterminations humaines. Ce colloque propose d'interroger les recompositions anthropologiques, juridiques, philosophiques et épistémologiques que l'effritement des limites de la nature rend possible. La semaine passée, le philologue Jean-Noël Robert s'était demandé comment situer la nature dans l'esprit selon l'approche japonaise et comment cette notion européenne avait été traduite dans la pensée bouddhiste sino-japonaise dont il est spécialiste. Aujourd'hui, Han Cheng, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine, interroge à son tour, en première partie, cette altérité de la notion de nature dans la Chine ancienne. Alors que l'Europe appréhende la nature sur le mode des oppositions, comment la Chine l'aborde-t-elle dans une perspective énergétique? François Host, professeur de philosophie et de sociologie du droit à Bruxelles et à Genève, pose quant à lui la question juridique de l'attribution à la nature ou à certains de ses éléments la qualité de sujet de droit. Peut-on représenter directement la nature et comment se mettre dans ses yeux en quelque sorte, demande-t-il, pour mesurer quel est son préjudice? Comment peut-elle être bien représentée indirectement par les associations dans le cadre de la défense de l'environnement? Le juriste nous propose des exemples passionnants pour voir dans quelle mesure nous pourrions personnaliser la nature. Mais gardons cette question pour la seconde partie. Et nous gagnons tout de suite le Collège de France le 20 octobre 2017 pour la conférence d'Han Cheng « Peut-on parler de nature humaine dans la pensée chinoise ancienne ?»
Alors, de fait, la nature humaine est un sujet qui a, comme vous le savez, suscité beaucoup d'excitation parmi nos intellectuels français, il y a à peu près 20 ou 30 ans, mais il semblerait que cette excitation est assez largement retombée depuis. Et pour ne rien arranger à mon affaire, dans les débats déjà à cette époque, la nature humaine avait généralement assez mauvaise presse. En 1985, Tsvetan Todorov, disparu récemment et dont je salue ici la mémoire, commençait un article par cette phrase « De nos jours, on a quelque répugnance à se référer à la nature humaine ». Et c'est le même Todorov, évidemment, dont on se souvient du « nous et les autres » auquel Justin Smith a fait allusion indirectement dans sa présentation. Donc, malgré tout, le présent colloque est pour moi l'occasion de remettre sur le tapis des débats également nourris et animés qui ont encore lieu aujourd'hui, de manière transatlantique, là aussi, curieusement, sur la question de la nature humaine, telle qu'elle aurait été posée par les penseurs chinois. Et c'est surtout l'occasion pour moi de réviser de fond en comble ce que j'ai pu moi-même penser et écrire sur la question. Comment en est-on arrivé à parler d'un débat sur la nature humaine en Chine ancienne ? Alors d'abord, je voudrais préciser que quand je dis Chine ancienne, je veux parler de la période qui a précédé l'instauration du premier empire centralisé, avec le fameux premier empereur Qin Shi Huangdi, donc qui s'est fait enterrer avec son armée de terre cuite. Donc l'instauration de ce premier empire centralisé en 221 avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire donc quand on parle de Chine ancienne, c'est en gros le premier millénaire avant l'ère chrétienne, et plus particulièrement en ce qui me concerne, donc la période où Confucius aurait vécu, c'est-à-dire le 6e, 5e siècle avant l'ère chrétienne, et la période immédiatement consécutive des royaumes combattants des 4e, 3e siècles, où là, vous avez donc une floraison de divers courants de pensée donc, qui entrent en compétition. Il s'agit donc d'une Chine non seulement pré-impériale et largement pré-moderne, mais pour reprendre la terminologie de Philippe Descola, il s'agit d'une Chine non moderne, dont le rapport de continuité avec la Chine moderne, qui est actuellement revendiqué haut et fort par le discours officiel chinois actuel, est plus que problématique. Alors, donc, après avoir précisé ça, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais il faut garder ça à l'esprit hein, pour ne pas tomber dans un raisonnement orientaliste. Alors, donc, toute la discussion tourne autour d'un mot qui s'écrit et se prononce en chinois moderne « xing ». Et c'est pas la peine d'être grand clair pour s'apercevoir que l'élément principal de ce caractère se retrouve dans celui qui se prononce en chinois moderne « sheng ». Donc vous avez ce composant principal qui était probablement interchangeable avec donc le premier caractère à l'origine. Or, donc ce mot « xing », dont, je le dis tout de suite, la fortune dans le courant des deux millénaires, disons, de l'histoire intellectuelle chinoise connue, a été équivalente à celle du mot « être » dans l'histoire de la philosophie dite occidentale, donc vous mesurez un peu ce que ça représente. Donc ce mot « xing » s'est trouvé traduit conventionnellement par « nature » ou « nature humaine ». Jean-Noël Robert nous parlait hier donc de la fortune bouddhique, dans le contexte du bouddhisme japonais, de ce terme appliqué donc à la loi, donc au dharma bouddhique et au Bouddha. Donc c'est effectivement très tentant, car satisfaisant pour l'esprit, de plaquer sur ce mot xing la notion de nature, puisque son composant principal, sheng, donc, a à voir avec la naissance. Alors évidemment, on fait tout de suite le rapprochement avec le mot latin natura, dans sa dérivation de nascor, naître, et son acception de naissance, engendrement, etc. Et d'autre part, sheng a également à voir avec une pousse, une jeune plante, qui fait penser évidemment à l'allusion au végétal, également contenue dans le mot grec phuo, donc d'où la fusis, etc. Bon. Alors, donc, sheng a ce sens premier d'une végétation, d'une plante qui pointe hors de terre et qui en est venue à signifier par extension donc tout ce qui est du domaine de la naissance, de l'engendrement et par extension ultérieure, tout ce qui est du domaine de la vie, du vivant, du vivre, etc. Je vous ai donné la phrase d'un des premiers dictionnaires de la langue chinoise qui s'appelle le Shuowenjiezi, et qui vous donne donc une explication de ce mot « sheng ». « Sheng », ça veut dire « progresser hein, »,« aller de l'avant ». Je continue la traduction. « C'est l'image d'une herbe ou d'une plante qui sort de terre ». Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de « xing ». Alors, à partir de là, hein, moi y compris, on s'est engouffré dans la brèche et on a allègrement plaqué sur le mot chinois xing, donc avec le mot nature, nature humaine, tout le schéma oppositionnelle, binaire, hein, alors nature humaine versus non humaine, nature versus culture, en anglais nature versus nurture, inné versus acquis, hérédité versus environnement, etc., etc. Bon. Alors, je dois dire qu'en écoutant les présentations d'hier, j'ai remarqué que beaucoup d'entre elles commençaient par une définition fondée sur justement ce genre de distinction dichotomisante. Alors, vous aviez nature divine versus monde objectif, la nature libre et déliée versus la nature des sciences expérimentales, le droit naturel versus le droit positif, le corps versus l'esprit. Bon, donc pour contrer cette tendance dichotomisante, Philippe Descola a bien essayé d'introduire la notion de relation et de rapport de monde. Alors, ce que j'ai pas encore entendu, c'est l'idée de penser le monde comme énergie. Et là, je vais essayer de vous montrer très très rapidement, donc, que c'est ce que fait ce mot Xing. Alors, la première question pour quelqu'un qui fait de l'histoire intellectuelle et pas de la philosophie, c'est de déterminer à quel moment un terme apparaît, ou plus exactement, commence à être un objet de discussion dans les sources textuelles qui nous sont parvenues, puisque nous parlons de quelque chose qui s'est débattu au premier millénaire avant l'ère chrétienne. Hein. Bon. Alors, autrement dit, à quel moment le mot Xing est-il passé du statut de mot outil, hein, c'est-à-dire d'un mot qu'on utilise sans trop penser à son sens, à celui de mot problème, hein, c'est-à-dire un mot outil sur lequel tout d'un coup on s'est arrêté. Alors, il semblerait que le mot Xing devient un mot problème dans le courant du 4e siècle avant l'ère chrétienne, donc dans cette Chine des royaumes combattants où il n'y avait pas que les vassalités qui se battaient entre elles, il y avait aussi les courants de pensée, les maîtres à penser qui se battaient entre eux. Alors, ce mot Xing devient un mot problème de manière concomitante et probablement en relation avec la notion de qi. Hein, c'est-à-dire ou qui en prononciation japonaise, donc cette notion d'un souffle, d'un influx ou d'une énergie vitale, hein. Ce mot chi qui désigne en fait de la vapeur qui monte de riz en train de cuire, hein. Donc les Chinois sont jamais très loin de la nourriture, donc c'est un chi justement qui nourrit, hein, qui nourrit la vie. Et vous l'avez ici dans une expression très célèbre de Mencius qui parle d'une énergie vitale qui est tellement puissante qu'elle vous submerge. Si on prend nos catégories grammaticales de langue latine, il peut être pris aussi bien au singulier qu'au pluriel, hein, c'est-à-dire on peut parler de un Xing, le Xing, mais aussi de les Xing, des Xing. Hein. Il peut fonctionner comme nom aussi bien que comme verbe, hein, de la même façon que on sheng, qu'on vit, qu'on est, qu'on vient à la vie, on peut aussi xing, hein, c'est-à-dire, si vous voulez, on peut aussi naturer. Bon, autrement dit, les usages de xing dans les sources anciennes nous portent à chercher plutôt du côté du gérondif, hein, la forme anglaise en ing, naturing, hein, plutôt que du substantif. Or, en français, nous sommes quand même assez, tributaires d'une langue qui substantive beaucoup. Hein. Alors, cette notion n'est donc pas à comprendre comme celle d'une substance, d'une entité ontologique, comme le serait la nature humaine, mais comme le mode de fonctionnement, ou on pourrait dire le modus operandi, hein, en utilisant un gérondif, de la vie elle-même. Alors, toute l'intuition première contenue dans Xing tient à l'idée d'un arbre déjà en puissance, c'est-à-dire en tant que potentiel, dans la jeune pousse. Et Xing évoque non pas une entité sujette à définition ou à délimitation, mais désigne un processus de croissance ou de développement. Il s'agit donc d'un processus toujours évolutif, toujours en mutation, d'une dynamique et d'une dynamique holiste qui est celle dans laquelle tout être vivant ou non vivant, humain ou non humain, advient au monde et est au monde, hein, dans un rapport de continuité avec ce que les Chinois anciens appelaient le ciel. Alors le ciel, c'est pas le ciel transcendant, c'est au contraire l'ordre naturel des choses. Alors, ce processus est à penser donc non pas en termes ontologiques, mais donc en termes d'énergie vitale, laquelle anime la totalité du réel. Autrement dit, c'est une, on pourrait dire, une énergie monde. Alors, vous avez dans ce passage du Mencius une utilisation de ce mot Xing en tant que verbe dans la première phrase. On vous dit, donc, Mengzi dit, Mencius dit, ce que l'homme de bien, Xing, Xing pris comme verbe, c'est-à-dire ce qu'il nature, ne saurait être augmenté, dût-il faire de grandes choses, ni être diminué, dût-il vivre dans la pauvreté, car c'est le lot qui lui a été assigné. Ce que l'homme de bien nature, donc il insiste, c'est le sens de l'humain, le sens du juste, le sens des rites et du discernement, ce qu'il nature prend racine dans le cœur, se manifeste de façon rayonnante sur le visage, court le long de l'épine dorsale et se répand dans les quatre membres, lesquels, sans nul besoin de discours, le laissent transparaître. Autrement dit, ici, vous avez ce modus operandi de l'humain qui est décrit en termes d'énergie qui anime tout le corps et qui transparaît donc dans le visage, dans tout ce qui est visible du corps, comme quelque chose justement qui vous nourrit. C'est comme quand on voit une personne en bonne santé, on lui dit qu'elle a l'air rayonnante. Autrement dit, la question n'est pas de savoir où doit passer la démarcation entre nature et culture, ou entre humain et non-humain, mais c'est de partir du tout comme énergie et de savoir si cette énergie est intrinsèquement bonne au sens où elle permet la perpétuation de la vie. Et dans la perspective de la Chine ancienne, il n'est rien d'autre en dehors de cela. La Chine ancienne a jugé inutile de s'inventer un dieu ou un primum mobile ou une idée, un concept du bien, c'est avec cela que nous devons nous débrouiller pour être au monde, d'où l'importance de comprendre son fonctionnement. Donc il s'agit d'une approche, on pourrait dire, fonctionnaliste et non conceptuelle, et donc il s'agit, permettez-moi l'expression, de faire avec, de sorte que la vie puisse continuer. Alors, la discussion prend sa forme classique dans ce qui a été compris comme une opposition entre deux affirmations assignées au domaine de l'éthique. Vous avez, alors comme sur un ring de boxe, à ma gauche, Mencius, donc Mengzi que je viens de citer, qui aurait dit donc « Ren zhi xing shan », c'est-à-dire donc « la nature humaine, la nature de l'homme est bonne ». Et de l'autre côté du ring, à ma droite, vous avez un autre penseur nommé Xunzi, qui aurait dit « Ren zhi xing e », c'est-à-dire « la nature humaine est mauvaise ». En tout cas, c'est comme ça que la Vulgate a compris la chose. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que cette bataille supposée sur le xing ne concerne que certains textes. Cette bataille a lieu essentiellement dans trois séries de textes. Vous avez donc le courant confucéen avec Mencius et Xunzi, et vous avez évidemment tout le corpus textuel autour de Zhuangzi, qu'on a étiqueté de penseur taoïste. Mais il y a un certain nombre de textes qui ne mentionnent pas du tout ce mot. Par exemple, vous avez le Mozi aussi, qui n'en parle pas du tout. Vous avez le Laozi, donc autrement dit le livre de la voie et de la vertu, cité par Jean-Noël Robert hier, donc le Tao Te Ching, qui n'en parle pas non plus. Et vous n'avez qu'une seule occurrence en passant dans les entretiens de Confucius, qui est quand même assez fort, de café. Alors, ce qu'il faut comprendre, mais là j'ai pas le temps de développer, c'est que dans ces discussions qu'on retrouve dans les textes, Xing n'apparaît pas tout seul. C'est pour ça que je dis que une approche conceptuelle, définitionnelle, serait totalement à côté de la plaque. Xing est à prendre dans tout un dispositif d'autres termes. Je parle assez volontiers de constellations de termes qui interdisent justement une approche conceptuelle. Donc je voudrais quand même, pour ne pas vous citer que des textes confucéens, vous citer rapidement en traduction un passage du Zhuangzi, justement, de cet auteur dit taoïste, qui met en scène de manière intéressante Confucius. Je vous la donne dans la traduction excellente de Jean Lévy. Confucius admirait la chute de Luliang. L'eau tombait d'une hauteur vertigineuse et se déversait en écumant à 40 lieues à la ronde. Même les plus gros animaux aquatiques se gardaient de s'aventurer en cet endroit. Soudain, le maître, donc Confucius, aperçut un homme au milieu des remous. Il crut que c'était un désespéré qui voulait se suicider. Il dit à ses disciples de longer la rive pour lui porter secours. C'est toujours alors Confucius Boy Scout. Bon. Quelques centaines de pas plus loin, l'homme émergea de l'eau, frais comme un gardon, et les cheveux épars, se mit à déambuler sur la berge à moitié nu en chantant à tue-tête. Alors les cheveux épars, ça veut dire en fait il a l'air d'un sauvage, d'un animal. Confucius le rattrapa et lui dit « Ma parole, je vous avais pris pour un revenant. Mais de près, il semblerait que vous soyez fait de chair et d'os. Avez-vous une méthode, un tao, pour nager ainsi ?»« Non, répondit l'homme. Dans ce milieu, j'ai développé un naturel qui est devenu ma vie même. » Donc, j'ai développé un naturel qui est devenu ma vie même. Je me laisse entraîner par les tourbillons et je remonte au gré des courants ascensionnels, m'abandonnant au mouvement de l'eau. Alors, Confucius demande, qu'entendez-vous par milieu naturel et vie même ? L'homme répondit, je suis né dans ces collines et je m'y suis senti chez moi. Voilà le milieu. J'ai grandi dans l'eau et je m'y suis accoutumé, voilà le naturel. Je m'y meus sans même m'en rendre compte, voilà la vie même. Donc ça, c'est l'élaboration donc de cette notion de xing dans le Zhuangzi. Alors, ce sur quoi je voudrais conclure, c'est que quand le Mengzi dit « ren zhe xing shan », il ne dit pas « la nature humaine est bonne ». Alors, j'aime mieux vous dire qu'on s'est empressé de plaquer là-dessus Rousseau et compagnie, d'où les méfaits d'un comparatisme hâtif et trop prompt à sauter aux conclusions. Ça, c'est bon. Ce que fait Mengzi, c'est qu'il parle d'un mode de fonctionnement de l'humain, qui n'est qu'un mode de fonctionnement parmi tant d'autres, sous sa forme optimale, la plus complète et la plus saine. C'est, je pense, que ce qu'il faut comprendre par « shan ». De même que le mode de fonctionnement optimal de l'eau est de couler vers le bas. Et vous avez ici donc cet autre fameux dialogue de Mengzi avec un contemporain, un certain Kaozi, prétend que la nature humaine, le Xing, est comme une eau qui tourbillonne. Si on lui ouvre une voie à l'est, elle coulera vers l'est, et si on lui ouvre une voie à l'ouest, elle coulera vers l'ouest. Donc le xing humain ne fait pas la distinction entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, de la même façon que l'eau ne distingue pas entre l'est et l'ouest. Mais Mengzi, qui est plus malin, répond « Bon, admettons que l'eau ne fasse pas cette distinction entre l'est et l'ouest, mais ne la fait-elle pas entre le haut et le bas ?» Le xing humain fait dans le bon, c'est comme ça que je traduis xing shan, de la même façon que l'eau tend vers le bas. Il n'y a pas d'homme sans bonté, de même qu'il n'y a pas d'eau qui ne coule pas vers le bas. Alors certes, si vous faites jaillir l'eau en la frappant, vous pourrez la faire sauter plus haut que votre front, et si vous la canalisez en la refoulant, vous pourrez même la faire tenir en haut d'une montagne. Mais est-ce bien son mode d'être d'eau ? Elle ne fait alors qu'obéir à une force extérieure. L'homme peut être amené à ne pas bien agir, mais c'est qu'alors son xing est dans les mêmes conditions que cette eau que l'on force contre sa pente naturelle. Donc ce qui frappe ici, c'est que quand on vous parle de l'eau, on ne vous la définit pas comme un élément liquide, transparent, etc. Mais on vous parle d'un mode de fonctionnement. L'eau a cette tendance à couler vers le bas. Si vous la laissez faire, elle coule vers le bas. Et de la même façon, donc, l'humain a ce xing, ce mode de fonctionnement qui tend vers la santé et donc la perpétuation de la vie. Et de la même façon, quand Xunzi dit xing e, il parle d'un mode de fonctionnement qui ne peut être optimal de l'humain que s'il est étayé et guidé, comme l'eau doit être canalisée pour ne pas causer de débordements destructeurs, comme on l'observe si souvent maintenant. Donc, on pourrait dire que le soi-disant débat sur la nature humaine est en fait une discussion entre jardiniers ou entre cultivateurs. On a ce débat entre jardiniers qui sont en désaccord, non pas sur les définitions de la terre ou de l'eau, mais sur la manière d'utiliser au mieux leur propension naturelle, en sachant que la propension naturelle de la terre est de faire naître et faire vivre les êtres, et que la propension naturelle de l'eau est de couler vers le bas. Et je terminerai donc sur cette autre citation donc du Mencius, également très connue, qui est à mon sens vraiment la plus belle et la meilleure façon d'illustrer ce que Mencius entendait par le qi, par l'énergie vitale. Il nous dit ceci: les arbres de la montagne aux bœufs étaient beaux par le passé, mais étant à proximité de la capitale d'un grand pays, on les a coupés à la hache. Et donc, comment ces arbres pourraient conserver leur beauté? Du fait du repos que ces arbres prennent durant le jour et la nuit, et de l'humidité que leur apporte pluie et rosée, ils leur repoussent bien quelques surgeons, mais alors arrivent les bœufs et les moutons pour les brouter. Voilà pourquoi la montagne se retrouve dans un tel dénuement. En la voyant ainsi dénudée, on croit qu'elle n'a jamais eu de bois. Mais comment cela pourrait-il être son mode d'être au monde de montagne, son xing de montagne? Quant à ce qu'on trouve en l'homme, comment pourrait-il n'y avoir aucun esprit d'humanité et de juste? Ce qui fait qu'il abandonne son esprit foncièrement bon est exactement ce que la hache fait aux arbres. Si elle en coupe jour après jour, comment pourrait-il garder leur beauté? Du fait du repos qu'un homme, et vous remarquerez le parallèle, du fait du repos qu'un homme prend durant le jour et la nuit, et de l'énergie du qi que lui procure le petit matin, ses attirances et aversions sont peu ou prou celles d'un être humain. Mais ensuite, ce qu'il fait pendant la journée l'amène à perdre le bénéfice acquis pendant le repos. À force de déperdition, son énergie accumulée pendant la nuit ne suffit plus pour subsister. Et quand elle est tarie, notre homme n'est plus très loin d'une bête sauvage. En voyant en lui une bête sauvage, on croit qu'il n'a jamais eu de potentialité pour la bonté. Mais est-ce là son véritable mode de fonctionnement d'être humain? Ainsi, pour peu qu'il trouve de quoi se nourrir, tout être se développe. Mais qu'il perde sa nourriture et il est condamné à dépérir. Donc vous avez ici une magnifique illustration, donc, de l'enracinement naturel, alors c'est le cas de le dire, enracinement au sens propre, végétal du terme, donc de l'enracinement naturel de cette notion de xing, qui passe paradoxalement par l'évocation de la destruction de la nature, c'est-à-dire l'évocation du déboisement, dont ce texte en particulier montre qu'il a commencé très tôt en Chine et dont la Chine actuelle subit les conséquences aujourd'hui. Quand vous voyagez dans la Chine du Nord, vous vous rendez compte que les sols ont été complètement, par le déboisement, ont été rendus totalement incultivables. Et c'est ce en quoi, donc, la Chine non moderne rejoint la Chine moderne. Merci de votre attention.
Le Collège de France et France Culture vous ont présenté dans le cadre du colloque « Des natures en question » la conférence d'An Chang « Peut-on parler de nature humaine dans la pensée chinoise ancienne ?» Et tout de suite, voici celle de François Host, « La nature, sujet de droit ».
Alors, le débat concernant cette hypothèse d'une personnalisation de la nature, ce débat n'est pas d'aujourd'hui, il n'a jamais cessé, et dans la littérature occidentale, cette idée suscitait généralement scepticisme et objection. Je dois dire que j'ai moi-même formulé en son temps une série d'objections philosophiques et juridiques à l'égard de ce projet, pourtant parfaitement bien intentionné, et ce dans le livre que vous avez bien voulu rappeler, « La nature hors la loi » en 1989. Mais, plusieurs éléments remettent sans doute aujourd'hui cette problématique à l'agenda avec une acuité particulière. Ce sont d'abord des constats de fait. Ainsi, l'accroissement, bien sûr, de la gravité des menaces et l'urgence de leur trouver une parade. Le nouveau concept d'anthropocène, annonciateur d'une probable sixième extinction de masse, désigne notre entrée dans une ère caractérisée par le fait que les actions humaines sont devenues la contrainte géologique majeure sur la biosphère et ainsi la cause d'une révolution géologique d'origine humaine. Par bien des aspects, cette révolution met désormais en danger ce que les juristes appellent désormais, le concept est nouveau, la sûreté de la planète, prenant parfois même la forme, dans le registre pénal, de ce qu'on commence à appeler un écocide. Ce constat s'accompagne, il faut bien le reconnaître, de l'échec assez généralisé des politiques mises en place depuis des décennies et du droit de l'environnement classique qui les accompagne. Comme l'observe un projet de directive de l'Union européenne en vue de préserver les droits de la nature, la situation des écosystèmes n'a cessé de se dégrader au cours des décennies qui ont suivi l'adoption des principales législations environnementales. En dépit de ces textes que nos États ont adoptés, la logique productiviste et consumériste reste dominante, subvertissant souvent la mise en œuvre de ces textes, notamment en raison du phénomène que les politologues connaissent bien, le phénomène de capture, le fait que le régulateur est en réalité sous l'influence du régulé. À ces constats de fait s'ajoutent de nouvelles considérations théoriques et éthiques conduisant à la nécessité d'envisager à frais nouveaux cette question de la personnalisation de la nature. Tout d'abord, une attitude que je qualifierais de pragmatique, qui conduit dans ces matières à rechercher le résultat souhaitable, ici une protection enfin effective des milieux. Donc de privilégier cette attitude pragmatique à l'égard d'une posture philosophique qui consisterait à se crisper sur des positions de principe et qui conduirait, comme je le pensais il y a quelques années, à réserver la personnalité juridique aux seuls humains et institutions humaines. Après tout, me dis-je, la personnalité juridique n'est qu'un instrument juridique, une fiction utile pour imputer une capacité d'action au sens juridique, capacité au demeurant variable, pour reconnaître des droits et des devoirs parfaitement modulables, et aussi pour attribuer, le cas échéant, un patrimoine à une entité dont nous, la société, jugeons collectivement qu'il est souhaitable de l'instituer ainsi en personne juridique. Ensuite, seconde considération théorique qui m'amène à remettre cette question sur le chantier, ce serait une ouverture pluraliste à des modèles anthropologiques diversifiés. Il y a différentes conceptions du lien qui nous relie à la nature. Ouverture donc pluraliste qui doit nous faire considérer positivement l'expérimentation juridique, de nature pluraliste elle aussi, qui consiste, comme je vais essayer de vous le montrer par des exemples extrêmement récents, qui consiste à tenter d'articuler au sein d'un même ordre juridique des solutions apparemment hétérogènes, inspirées par ces visions différenciées. Tel par exemple le cas de la Nouvelle-Zélande, je vous en parlerai tout de suite, qui fait aujourd'hui sa place à des régimes juridiques holistes et animistes, au sein de la bonne vieille tradition britannique classique du common law. Il y va d'expériences de diversification des solutions juridiques qui, tout à la fois, territorialisent le droit, donc qui l'adaptent en fonction des spécificités des milieux de vie locaux, et en même temps lui impriment des orientations nouvelles, mieux à même de faire justice aux coutumes et traditions de minorités indigènes jusqu'ici privés d'une maîtrise de leur environnement, une maîtrise qui soit en face avec leur vision du monde et leur propre rôle de communauté à l'égard de ces milieux. Cette résolution pluraliste trouve elle-même à se conforter dans les développements actuels des savoirs éthologiques et anthropologiques notamment. L'éthologie contemporaine ne cesse de réduire la distance spécifique séparant l'homme de l'animal, mettant ainsi en lumière les capacités cognitives de ceux-ci, la richesse de leur vie émotionnelle et jusqu'à leur sens de l'égalité et de la solidarité. Je fais allusion notamment à des travaux de Franz de Waal. Et puis l'anthropologie contemporaine parcourt l'autre bout du chemin, en explorant les domaines au-delà de l'humain où s'origine et s'exerce la pensée. Très révélateur de cette perspective est l'ouvrage remarqué d'Edward O'Conne, préfacé par Philippe Descola, ouvrage intitulé « Comment pensent les forêts ?». Dans cet ouvrage, et à la faveur d'une reprise originale de la triade sémiotique de Peirce, articulant, comme vous savez, trois types de signes, les icônes, les indices et les symboles, l'auteur s'emploie, dans le même temps, à décrire la continuité et l'enchâssement de cet univers de signes, amorçant donc une possible communication entre les espèces, il parle de pidgin interespèce, et puis d'autre part, et ça m'importe aussi comme juriste, pointant malgré tout la spécificité du langage humain qui est condition de possibilité, dit-il, de l'éthique et de la responsabilité. Ainsi, j'aime beaucoup ça, l'auteur fait coup double, disant dans le même temps l'ouverture de l'humain sur une sémiotique plus générale qu'il décrira comme une biosémiotique, la vie pense, tout en soulignant la propriété émergente, donc il y a continuité et propriété émergente, la propriété émergente que constitue l'apparition d'un langage conventionnel ou symbolique investissant les humains que nous sommes de responsabilités spécifiques. Cette position dialectique ménage l'immersion radicale de l'homme dans un univers qui le dépasse et le conditionne, tout en l'investissant d'un rôle spécifique, qui ne doit pas être pensé en termes de supériorité ou de maîtrise, mais plutôt sous la forme de responsabilité propre à son état. Ce qui, tout naturellement, me conduit maintenant à la question juridique de l'attribution à la nature ou à certains de ses éléments de la qualité de sujet de droit. Après un bref survol des principales avancées actuelles dans ce domaine, je me risquerai à quelques considérations critiques. En effet, si l'option que je fais mienne de pragmatisme et d'ouverture pluraliste doit nous conduire à envisager sous un œil favorable ces innovations, il convient bien évidemment, ici comme partout ailleurs, de garder l'esprit critique et donc de mesurer les limites et les conditions assez spécifiques de réussite possible de ces innovations juridiques. Permettez-moi pour commencer un bref rappel un peu technique, un bref rappel juridique à propos de la notion de représentation. Car enfin, même si l'on accorde la personnalité juridique à la nature, il faut nécessairement qu'interviennent des humains, procureurs, tuteurs, stewards, guardians, trustees, qu'interviennent des humains pour exercer ces droits de la nature, répondre de ses obligations et intervenir en justice. La nature doit dans tous les cas être représentée. Or, l'on pourrait objecter que, d'une certaine façon, elle l'est déjà et sous des modalités variées. Sans doute, pourra-t-on alors répondre, mais n'étant pas une personne à part entière, jusqu'à aujourd'hui, la nature n'est aujourd'hui susceptible que d'une représentation indirecte. Pour bénéficier d'une représentation pleine et entière, il faut nécessairement en passer par l'attribution de la qualité de sujet de droit, la fiction de la personnalité juridique. La différence n'est pas que académique entre les deux situations. En effet, dans l'hypothèse d'une représentation directe, c'est le préjudice propre de la nature qui est considéré. Il faut en quelque sorte se mettre dans les yeux de la nature et voir quel est son préjudice et pas celui du propriétaire ou de l'exploitant. C'est son dommage qui est réparé par l'attribution de dommages-intérêts et affecté à son patrimoine propre. Et enfin, c'est elle la nature qui, si on ose dire, prend l'initiative de l'action. Ceci dit, on peut tout de même noter que les différentes formes de représentation indirecte qui existent déjà, représentation indirecte de la nature, peuvent contribuer également à la défense de ce patrimoine naturel et pas toujours nécessairement dans la seule perspective anthropocentrique des intérêts humains du propriétaire ou de l'usager. Je citerai pour faire bref quelques exemples de ces représentations indirectes de la nature qui existent déjà aujourd'hui. La première stratégie, c'est le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, où l'on passe par le détour de l'article 8 qui concerne la vie privée et familiale et qui a permis déjà de défendre ainsi indirectement l'intégrité de milieux naturels. Deuxième stratégie, c'est la prise en charge des intérêts de la nature à l'initiative de l'État ou des collectivités publiques locales. Dans l'affaire de l'Erika, un de ces nombreux pétroliers qui est venu couler devant les côtes bretonnes avec les pollutions que vous savez, eh bien, pour la première fois, la Cour de cassation française a consacré cette notion de préjudice écologique propre à la nature elle-même. Enfin, c'est la voie la plus féconde, me semble-t-il, la prise en charge des intérêts de la nature peut se faire par le biais d'associations citoyennes se revendiquant d'un intérêt collectif, d'un intérêt diffus à la jouissance et la préservation d'un environnement sain. Ce point un peu technique étant précisé, je peux maintenant évoquer quelques-unes des consécrations les plus significatives de cette idée de personnalisation de la nature. Au plan international tout d'abord, aucun instrument contraignant, donc ayant des effets juridiques effectifs, ne la reconnaît aujourd'hui. On peut cependant citer au plan symbolique, et le droit progresse toujours de cette manière-là, d'abord par des textes de soft law, des textes symboliques qui font avancer les mentalités, et puis dans un deuxième temps, ces avancées reçoivent une consécration en droit positif. Eh bien, au plan symbolique, on peut signaler la Charte mondiale de la nature qui proclame pour la première fois le 28 octobre 1982 à l'Assemblée générale des Nations unies, Charte mondiale de la nature qui proclame pour la première fois sa valeur intrinsèque. Et puis aussi, 4 ans plus tôt, dès l'année 1978, à l'UNESCO, on a adopté la Déclaration universelle des droits des animaux. Donc des textes jusqu'ici restés à l'état symbolique. Au plan régional, je citerai une intéressante jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans une série d'affaires qui s'échelonnent de 2001 à 2010, opposant les communautés indiennes du Nicaragua, du Suriname et du Paraguay à des entreprises qui, avec la complicité des États, dépossédaient ces communautés de leurs terres pour se livrer, comme c'est hélas trop souvent le cas, à toutes sortes d'activités extractives. La Cour se fait dans ses affaires largement l'écho de la vision du monde, animiste et holiste, de ces communautés. Elle note que, aux yeux de ces populations, ces terres sont des communs, inaliénables, objets d'un respect inconditionnel et partie intégrante de leur identité propre. En leur donnant pour la première fois raison, cette Cour interaméricaine des droits de l'homme consacre donc la valeur juridique de leurs coutumes et traditions et fait droit ainsi indirectement à une conception personnaliste de la nature. Un pas de plus est franchi au plan national, cette fois avec l'inscription en 2008 dans la constitution de l'État de l'Équateur de la personnalité juridique de la nature et l'attribution à la Pachamama de divers droits, existence, maintien, régénération de ses cycles vitaux, de sa structure, de ses fonctions, de ses processus évolutifs, droit à la restauration en cas de préjudice et en outre, toujours la question de la représentation, toute personne, communauté, peuple ou nation, donc c'est l'action populariste, l'action populaire, toute personne est investie du droit d'en appeler au pouvoir public afin de faire respecter ses droits de la nature. Le préambule de cette constitution équatorienne précise l'esprit de ses dispositions. Je cite « La Pachamama dont nous sommes partis est vitale pour notre existence ». Et encore ceci, le peuple a décidé de construire une nouvelle forme de vie citoyenne en diversité et en harmonie avec la nature pour atteindre le bien vivre. La Bolivie emboîte le pas à l'Équateur 2 ans plus tard, en 2010, en adoptant une loi sur les droits de la terre-mère. Cette loi garantit les droits à la vie, à la biodiversité, à l'eau, à l'air pur, à l'équilibre, à la restauration et à la non-pollution. Elle demande à l'État et aux citoyens de respecter ces droits de la nature et fournit un ombudsman, une sorte de médiateur, à la nature en vue de protéger ses intérêts. La même année 2010, la Bolivie accueille la Conférence mondiale des peuples sur les changements climatiques et les droits de la Terre-Mère. Une déclaration universelle des droits de la Terre-Mère est proclamée qui réaffirme la communauté de destin, de tout destin, de tous les êtres reliés qui la composent. Reconnaître les seuls droits des humains dans cet ensemble conduit nécessairement à des déséquilibres néfastes à tous. Et je cite encore, cette précision est intéressante et peut répondre à des objections qu'on pourrait se faire. Cette déclaration précise encore que les êtres organiques et inorganiques ont des droits qui sont spécifiques à leur espèce, donc pas nécessairement tous les mêmes droits, ce qui n'aurait pas de sens, spécifiques à leur espèce ou à leur type et appropriés à leur rôle et leur fonction. Ce mouvement gagne les États-Unis également. De longue date, la technique du Public Trust, intégré dans la constitution de nombreux États fédérés, ce Public Trust confère une protection renforcée à certains milieux naturels, garantit un accès raisonnable au public et désigne un mandataire, le trustee, en vue de protéger, en justice notamment, ce statut spécifique. On ne part donc pas de rien. Cependant, la révolution copernicienne est franchie, le pas décisif est franchi, dès lors qu'un certain nombre de municipalités vont plus loin, adoptant désormais des ordonnances locales qui reconnaissent des droits inaliénables à la nature et investissent les résidents du droit de les défendre en justice. Ça a commencé par des petites villes en Pennsylvanie ou dans le New Hampshire. Elles sont aujourd'hui plus de 180 municipalités, dont certaines importantes comme la ville de Pittsburgh. L'ordonnance adoptée par la ville de Pittsburgh prenait soin d'interdire la pratique très polluante, comme vous savez, du fracking. Alors, comme le droit est toujours conflictuel et arbitre les tensions d'intérêts au sein de la société, les choses ne sont pas simples parce que les lobbies pétroliers et gaziers ont poussé l'État de Pennsylvanie de s'opposer à cette interdiction par un certain nombre de villes en autorisant les industries à pratiquer leurs activités partout sur le territoire et sans considération des ordonnances locales. Mais le droit est conflit et à son tour, cette loi de l'État de Pennsylvanie fut déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême de cet État qui restaura de la sorte la garantie du droit à la préservation des valeurs naturelles de l'environnement. Il arrive aussi que ce soit certains éléments naturels, certains d'une très grande importance, qui bénéficient de cette personnification juridique. L'année 2017 connaît à cet égard deux événements majeurs. D'une part, l'attribution de la personnalité juridique au Gange et au fleuve Yamuna, par la Cour suprême de l'État d'Uttarakhand en Inde le 20 mars 2017. Et d'autre part, la personnification juridique du troisième fleuve de Nouvelle-Zélande, le Whanganui, en vertu d'une loi adoptée par le Parlement néo-zélandais exactement le même jour, le 20 mars 2017. Permettez-moi quelques commentaires et analyses plus approfondies de ces deux avancées juridiques récentes. L'attribution de la personnalité juridique à un fleuve de l'importance du Gange par la Cour suprême d'un État de tradition de common law est un événement important. À lire attentivement cependant la décision rendue par la Cour suprême de l'Uttarakhand, je note que ce ne sont pas tellement des considérations écologiques tirées de la valeur intrinsèque du fleuve qui motivent cette option, mais bien les droits culturels des hindous. Tandis que l'accent, et c'est important aussi, l'accent est mis au plan opérationnel sur des modalités très précises de gestion en commun de ces milieux naturels. La Cour précise en effet que ces deux fleuves revêtent un caractère sacré pour les hindous, qui entretiennent avec eux une relation spirituelle profonde, une relation d'adoration et de respect. Et la Cour de rappeler qu'à leurs yeux, une immersion dans ces fleuves sacrés peut notamment effacer les péchés, ce qui n'est pas rien. Elle conclut par des considérations plus opérationnelles, mais qui ont toute leur importance, avec la mise en place d'un conseil de gestion de ces entités en vue de régler toutes les questions relatives à l'irrigation, la navigation, la fourniture en eau des agglomérations jusqu'à et y compris la gestion des industries hydroélectriques. C'est bien, on s'inscrit dans la modernité, il faut concilier à la fois cette inspiration animiste et holiste et les réalités de la gestion d'aujourd'hui, surtout dans des endroits aussi densément peuplés. La personnification du fleuve Wanganui par le Parlement néo-zélandais en mars 2017 est quant à elle le point d'aboutissement d'un très long combat qui remonte au traité de Waitangi en 1840, qui établissait la souveraineté de la couronne britannique sur la Nouvelle-Zélande tout en concédant certains droits aux populations autochtones maoris. Dès le début, cependant, le colon britannique se rendit coupable de violations de ses engagements, à la faveur notamment de divergences de traduction du traité, on connaît ça, bafouant ainsi la cosmologie des Maoris, s'accaparant ou exploitant leurs terres, en violation de la relation spirituelle de respect et de responsabilité que ces populations nourrissent à son endroit. Les griefs s'accumulant et la conscience de la nécessité d'enfin faire droit à la cosmologie, aux traditions et coutumes des Maoris, un tribunal de réparation fut institué en 1975, le Waitangi Tribunal. Cette juridiction ordonna diverses réparations tout en multipliant les recommandations politiques au gouvernement néo-zélandais en vue de redresser les torts du passé. Dans chaque cas, il s'agissait au moins autant de restaurer une responsabilité spirituelle et morale, une autorité mana à l'égard des milieux vivants, que de réparer un préjudice matériel en termes de jouissance de ressources. Communautés humaines, ressources naturelles, ancêtres, esprits forment une communauté de vie dès lors que tous descendent de la terre-mère qui est comme le corps de la tribu. Un même terme désigne du reste la terre et le placenta, Wenua. Ainsi, au fil des années, les Maoris ont été associés de façon de plus en plus franche à la gestion et protection du fleuve, en même temps que la philosophie animiste et holiste qui les anime et inspire leur mode de vie était prise en considération. Le chantier le plus récent qui allait conduire au pas ultime concerne le fleuve Waitangi. Cette fois, le protocole d'accord relatif aux griefs du passé reconnaît directement la personnalité juridique du fleuve et bâtit cette instance Te Awa Tapuna, ensemble vivant, physique et spirituel, s'étendant des montagnes jusqu'à la mer. La propriété du lit du fleuve est transférée de la couronne à la nouvelle entité juridique. Et cette dernière est représentée par des guardians, tandis qu'une stratégie susceptible de garantir la santé et le bien-être du fleuve est mise en place. Au chapitre des réserves ou des objections possibles, j'observe d'abord que, comme je l'ai dit plusieurs fois, le droit étant par nature conflictuel, le simple fait de personnaliser la nature et de lui accorder des droits n'a pas, évidemment, automatiquement pour effet de lui donner systématiquement raison à l'encontre d'autres droits revendiqués par d'autres titulaires. Ainsi en va-t-il, par exemple, des droits de la terre inscrits dans la Constitution équatorienne, qui cohabitent bien évidemment avec des droits plus classiques, comme les droits de propriété ou de libre entreprise. Parfois, le conflit d'intérêts peut surgir entre les droits culturels revendiqués par les autochtones et la protection de la nature elle-même. Certains soutiennent en effet le danger de s'en tenir à des coutumes, immémoriales sans doute, mais figées, qui pourraient s'avérer contre-productives, même dans l'optique d'une meilleure protection des ressources naturelles elles-mêmes. On fait valoir aussi que la protection pourrait ne concerner que certaines zones limitées ou ressources ponctuelles, engendrant dès lors une protection à deux vitesses, peu satisfaisante au regard du paradigme écologique est évidemment un paradigme systémique où tout fait système. Le même souci de réalisme doit également nous conduire à nous interroger avec le recul de quelques années sur l'effectivité des mesures mises en place suite à ces avancées. De ce point de vue, l'expérience équatorienne remontant à 2008, et qui est certainement la plus radicale, reste encore loin d'être satisfaisante. On constate en effet que peu, pour ne pas dire très peu, de recours semble avoir été intenté sur la base des droits reconnus à la nature. Et dans les rares cas où des recours sont intervenus, et des décisions favorables prononcées, ben, elles sont parfois restées inexécutées, vu la difficulté de fixer un prix à la nature ou des modalités de ces réparations. Ces premières réserves et objections que je viens de rappeler n'ont pas pour but de disqualifier les techniques que j'ai évoquées précédemment. Elles invitent cependant à pousser plus loin l'analyse et à tenter de préciser l'objectif. Le professeur Solon Romero, remarquable personnalité politique bolivienne et un des protagonistes principaux du mouvement Pachamama, du mouvement que j'ai évoqué, retient à cet égard notre attention en précisant que, à proprement parler, les communautés indigènes amérindiennes ne s'expriment pas en termes de droit au sens occidental du terme, je veux dire droit subjectif, prérogatives individuelles. Le concept même de droit venant de l'extérieur du contexte indigène. L'important à leurs yeux est plutôt l'équilibre à respecter entre tous les êtres, vivants et non vivants, communiant dans la terre-mère. Cette indication est précieuse. Elle doit nous inciter à la défiance à l'égard d'un double danger. D'une part, le primat accordé à la catégorie de droit subjectif, au détriment de la catégorie au moins aussi importante de devoir et de responsabilité, et d'autre part, deuxième danger, la tendance à développer une pensée moniste à vocation dominatrice, le primat de la nature après le primat des humains. Une analyse rigoureuse des reconnaissances indiennes et néo-zélandaises de la personnalité juridique accordée à deux grands fleuves conduit d'ailleurs à nuancer et enrichir l'interprétation qu'on peut en faire. À propos du Gange et du Yamuna, j'ai souligné le fait que la Cour ne se basait pas tellement sur des considérations écologiques INSEE, mais bien plutôt sur la vision cosmologique des Indiens qui leur réservait un véritable culte. Et dans le même temps, était mis en place, et c'est important aussi, une administration de ces cours d'eau susceptible d'atteindre ces objectifs. Dans le cas néo-zélandais, la valeur intrinsèque du fleuve était sans doute nettement affirmée, mais ici encore, me semble-t-il, l'essentiel du récit développé trouve son origine dans la culture, les croyances, les modes de vie, les responsabilités assumées par les peuples autochtones concernés. Ainsi, plus que des droits individuels classiques ou que des droits attribués à la seule nature, ce sont des droits culturels collectifs qui pourraient s'avérer les plus efficaces et les plus alternatifs au paradigme dominant. Un faire collectif et pas seulement un avoir individuel ou partagé. Aujourd'hui que la tragédie a changé de camp et qu'apparaissent toujours plus clairement les dommages engendrés par une gestion mercantiliste et platement matérialiste des milieux naturels, cet exemple néo-zélandais peut s'avérer inspirant. Un exemple basé à la fois sur de solides pratiques de communing communautaire et une éthique de la responsabilité à l'égard du plus vulnérable, homme ou ressource naturelle. Un exemple fondé en dernier ressort sur une conscience dialectique radicale, convaincue que de toutes les composantes du milieu, aucune ne va sans l'autre. Ou plus précisément encore, et en application du modèle d'Eduardo Cohn que j'évoquais tout à l'heure, c'est la conscience que si la Terre peut survivre sans l'homme, l'homme, en revanche, ne peut survivre sans la Terre. Je vous remercie.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 20 octobre 2017 le colloque Les Natures en question, la conférence de François Host, La nature, sujet de droit. Et en première partie, vous avez pu entendre celle d'Anne Chang, Peut-on parler de nature humaine dans la pensée chinoise ancienne ? Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations, les vidéos et la bibliographie liées à cette diffusion. Les actes du colloque Les Natures en question sous la direction de Philippe Descola viennent d'être publiés chez Odile Jacob. Iconographie web Claire Consignon. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.